Vous écoutez RTL.
7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez Laurent Berger,
secrétaire
général de la CFDT.
Pardon. Le Bonjour. Département du Haut-Rhin veut conditionner le versement du RSA à la réalisation de 7 heures d'activité générale par semaine pour ceux qui le reçoivent. C'est choquant ?
Oui, c'est choquant. Oui, je trouve ça choquant. La question du bénévolat, elle est posée à chacun. Et que des personnes qui ont le RSA soient bénévoles, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Que ce soit contraint, ça veut dire qu'on contraint finalement à une contrepartie le fait qu'on exerce la solidarité nationale. C'est ça le RSA.
Mais et donc, l'activité, ce n'est pas une forme de réinsertion ?
Mais si c'est de l'activité, dans ce cas, c'est du travail. Donc, ce n'est pas du bénévolat. C'est de l'activité, c'est un besoin. Et donc, dans ce cas, c'est rémunéré. Il y a un dispositif qui s'appelle le RSA Activité qui permet de recevoir le RSA et en même temps de compléter par un revenu. Donc, voilà, il faut distinguer. Ouais. Le bénévolat, ce n'est pas du travail.
Mais vous, vous trempez dans la marmite. Hein, le RSA, RSA Activité, il faut savoir toutes ces différences.
Ah ben, enfin, il faut savoir, mais c'est justement, les choses sont complexes dans la vie. Il faut pouvoir les expliquer.
L'assurance chômage. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, Myriam El Khomri se déclare résolue à examiner toutes les mesures possibles, sans tabou, pour en faire l'évaluation, y compris la dégressivité. Vous lui donnez tort d'être pragmatique ?
Ben là, je lui souhaiterais, si c'était dans ce cas de figure, je lui souhaiterais bon courage, parce que d'abord, elle parle de la dégressivité, et on sait que c'est une mesure qui n'a pas d'efficacité économique et qui est injuste en plus. Et puis, on n'a pas commencé à négocier. On commence à négocier le 22 février. Donc il faut que Madame la Ministre nous laisse le temps de la négociation.
Mais pendant ce temps-là, le déficit se creuse quand même. Hein.
Non, mais pendant ce temps-là, le chômage augmente aussi. C'est son travail d'essayer de le faire, qu'il baisse. Je rappelle que l'assurance chômage, c'est d'abord un filet de sécurité qui permet aux personnes qui subissent le chômage, qui ne sont pas responsables du chômage, d'avoir un revenu de remplacement.
Elle a une autre idée, la possibilité pour les syndicats minoritaires de demander l'organisation de référendums dans les entreprises à la condition que ces syndicats représentent au moins 30% des salariés. C'est une bonne idée de donner la parole aux salariés ?
La CFDT est pour les accords majoritaires, c'est-à-dire que des accords qui font que les organisations syndicales qui signent représentent une majorité de salariés. Mais dans la proposition qui est faite par la ministre, qui est celle de la ministre, il y a une part intéressante, c'est que d'abord, on passe par un accord, par une négociation et un accord qui est signé. Qu'ensuite, cet accord, il doit recueillir 30% et qu'il y a possibilité pour les signataires de cet accord de consulter les salariés. D'ailleurs, le terme référendum n'est pas le bon terme. C'est une consultation des salariés. Moi, je ne vois pas quelle organisation syndicale peut être contre la consultation des salariés, à condition que ce soit à usage des organisations syndicales qui est après une négociation.
Alors, vous passez pour un réformiste et dans votre livre que vous avez publié en octobre dernier, « Permis de construire », vous dénoncez le vieux syndicalisme. Alors, est-ce que, par exemple, les manifestations et le blocage des transports en commun de la région parisienne par la CGT pour soutenir des personnes qui n'ont rien à voir avec les transports en commun, mais qui étaient les syndicalistes de Goodyear, est-ce que c'est du vieux syndicalisme ?
Non, mais quand je dénonce le vieux syndicaliste, c'est surtout un syndicaliste qui ne regarde pas la réalité en face. Je ne veux pas commenter les actions qui sont menées. Je ne suis pas sûr que de bloquer les transports sans avoir prévenu avant, ce soit une bonne chose, mais peu importe. Je veux d'abord dire que le monde est en train de changer. La situation économique est en train de changer. On vit de profondes mutations. Elle s'appelle mondialisation. On sait tous que la France n'a pas su l'affronter. Elle s'appelle transition écologique. Elle s'appelle transition numérique. Et face à cela, il faut réinventer la protection des salariés et des travailleurs, parce qu'ils ne sont pas tous salariés. Il faut réinventer le modèle social, il faut réinventer la fiscalité. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Et le rôle du syndicaliste, c'est d'apporter sa pierre à cette reconstruction d'un modèle économique et social basé sur le 21e siècle.
Quand on vous entend et quand on lit votre livre, on a l'impression que la CFDT est à peu près la seule formation syndicale à essayer de s'emparer de ces problèmes. Alors, les syndicats français, un peu archaïques, disons, ils vont pouvoir se colter cette réalité qui arrive, là, avec moins de salariés, moins de CDI, des travails individualisés.
Ça ne veut pas forcément dire moins de CDI, mais vous savez, posez-moi des questions sur la CFDT.
Oui, mais justement, alors vous, comment vous faites ?
Eh bien, tout simplement, on regarde la réalité en face et on entend les salariés. On les consulte, on est en proximité avec eux et ils nous disent qu'ils sont conscients d'un certain nombre de réalités, mais que ça n'empêche pas qu'ils souhaitent toujours des protections. Et ça ne veut pas dire moins de CDI, de la transition numérique ou la transition écologique. Qu'ils souhaitent que leur entreprise investisse, qu'on leur parle d'avenir, de développement économique, qu'on leur parle de recherche, d'investissement. Autant de termes qui sont assez peu présents finalement dans le débat politique aujourd'hui quand on parle d'emploi. Quand on parle d'emploi, on parle de serrer les boulons de l'ancien modèle. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. c'est de regarder la transition qui est à l'œuvre, et bien comment on la vit pour que ça ne provoque pas de casse sociale, pour que ça ne provoque pas de drame humain, pour que ça ne provoque pas de chômage, parce qu'on sait que, par exemple, si on prend le numérique, c'est d'abord des craintes, et justifiées de la part d'un certain nombre de salariés, ça peut aussi être des opportunités. Et c'est ce langage-là d'espoir, hein, de confiance qu'il faut aussi avoir en travaillant sur ces mutations, mais ce qu'on n'a pas fait précédemment.
Vous, par exemple, vous auriez une solution pour régler le conflit entre les taxis, les VTC, Uber, voilà, le numérique qui débarque à la vitesse grand V dans plein d'activités.
Bah, d'abord, je pense que sur ce sujet-là, la solution, c'est sans doute pas de traiter d'abord les taxis, puis ensuite les VTC, puis de nouveau les taxis, puis de nouveau les VTC. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui a bougé, c'est l'usage. On en est tous les usagers d'une manière ou d'une autre de la transition numérique. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner les taxis vers l'évolution de cet usage. Parce que je comprends l'inquiétude des taxis, moi. Mais je comprends aussi l'opportunité de création d'emplois, notamment pour des gens qui étaient aux portes des entreprises, que représentent les VTC. Et donc, la question, elle est très clairement, c'est une bonne illustration d'accompagner les taxis vers la sortie d'un modèle qui a fonctionné, mais qui ne fonctionne plus totalement, qui est mis en concurrence, mais en s'occupant des gens, en les aidant dans cette transition, en faisant encore en sorte que, y compris leur licence, soit prise en compte, etc., pour qu'ils ne soient pas laissés au bord du chemin, mais qu'on ne leur fasse pas croire que ça reviendra comme avant.
Emmanuel Macron, il parle beaucoup, hein, de ce monde numérique qui arrive. Ce serait un bon interlocuteur pour le Grenelle du numérique que vous souhaitez ?
Allez, pour le Grenelle du numérique, il faut que je souhaite, hein, parce qu'on est en face de profonds bouleversements qui vont très très vite. Il faut la ministre du Travail, il faut le ministre de l'Économie, il faut aussi le ministre des Affaires Sociales. Il faut, je pense que ça concerne tous les aspects de nos vies. Donc, pourquoi pas, évidemment, le ministre de l'Économie, mais il n'est pas le seul.
Il a des bonnes idées ou...
Bah, parfois, des fois il a de bonnes idées, des fois il n'a pas de bonnes idées. Vous savez, moi je ne suis pas commentateur de la vie politique.
Non mais quand même, ça peut être un bon interlocuteur pour vous, parce qu'il a, il a,
un
il a le monde
savez,
moderne
savez,
en tête.
Vous savez, parfois il a aussi une tentation de serrer un peu les boulons de l'ancien modèle en disant il faut moins de droits pour les salariés. Non, vous savez, la question elle n'est pas la recherche ni de la martingale, c'est-à-dire de la solution miracle, ni de l'homme ou de la femme providentielle. La question elle est notre capacité à poser ensemble les défis du monde d'aujourd'hui et celui de demain qui va très vite, qui a déjà commencé, et de trouver les compromis pour qu'il y ait à la fois de la performance économique et en même temps de la protection pour les travailleurs. Moi, je crois que c'est possible. D'autres pays nous montrent que c'est réalisable.
Faisons ce Grenelle de numérique, pour quand ? Vous le souhaitez ?
Maintenant, moi, j'ai demandé. Il faut que le gouvernement réponde.
Maintenant, quoi ?
Bien sûr, mais ça a déjà commencé. Il faut aller très vite.